Liturgie de la parole de ce mercredi 8 octobre 2025, mercredi de l'avant 7e semaine du temps ordinaire, année impaire. Bénissez le Seigneur, il se souvient de son amour en faveur de son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, répands ta lumière dans nos esprits, pour que nous soyons toujours fidèles à te servir, puisque c'est toi qui nous as créés dans ta sagesse et qui nous dirige avec amour. Toi qui es vivant et glorieux pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Toi, tu as pitié de Sérissa. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville? Lecture du livre du prophète Jonas au chapitre 4, du 1er au 11e verset. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfoui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de la mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Le sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ces ricins ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ces ricins qui ne t'a coûté aucun travail et tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 11e chapitre du 1er, au 4e verset. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, chers internautes, un mot peut résumer les lectures d'aujourd'hui, la première lecture et l'évangile, la compassion. La compassion, Dieu compatit à la souffrance de son peuple, même à la souffrance du pécheur. Il ne veut pas la mort du pécheur, la mort du criminel, Dieu ne veut pas de ça. Il veut que les pécheurs, les criminels, chacun de nous, se convertissent et vivent. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est que tous ses enfants se convertissent et vivent. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il est le Dieu de la compassion. Jonas 4, de 1 à 11. Dans les livres du prophète Jonas, au 4e chapitre et le 11 premier verset, on voit la compassion de Dieu pour les Ninivites. Jonas n'en revient pas. C'est un prophète, mais c'est un homme. Comme les humains, il y a un peu d'égoïsme. Il est juif, et comme tout juif, il pense que Dieu est le Dieu des juifs. Même si Dieu l'a envoyé chez les païens, les Ninivites, il n'est pas encore convaincu que Dieu est là pour le salut de tout le monde. Il pense que Dieu est là pour le salut des juifs. Et le livre de Jonas a été rédigé dans cet objectif-là, pour montrer aux uns et aux autres que Dieu veut le salut de tout le monde, pas seulement des juifs, mais même des païens, dont les Ninivites. Jonas n'en revient pas. Il se révolte, et même s'il se révolte contre Dieu, Dieu va lui montrer aussi sa compassion. Donc la première lecture, c'est la compassion de Dieu à l'égard de Ninivites et à l'égard de Jonas, qui s'est révolté contre Dieu. Mais Dieu ne va pas le tuer. Il va faire pousser un arbuste ricin qui va protéger Jonas. Le lendemain, cet arbuste disparaît et les prophètes regrettent que cet arbuste puisse mourir, puisse disparaître. Dieu lui dit, mais toi tu as compassion de cet arbuste et moi j'ai compassion de tout un peuple. Ça c'est des humains. Parfois, les humains se comportent très bien à l'égard des créatures comme les plantes, les animaux, mais à l'égard du prochain, à l'égard de leurs semblables, ils sont tout simplement méchants. Pensez à tous ceux-là qui ont des chiens et qui parfois dépensent beaucoup plus pour les chiens que pour son domestique ou sa bonne. Il y a beaucoup d'argent investi pour les chiens que pour ceux qui travaillent, ceux qui sont à votre service. Parfois c'est comme ça et c'est malheureux. Ça c'est la première lecture. Jonas a pitié du ricin qui a disparu, mais il souhaiterait que les habitants de Ninive soient détruits. Dieu lui dit non. Je suis le Dieu des compassions. Je ne veux la mort de personne. Eh bien ce Dieu qui est le Dieu des compassions voudrait que tout le monde soit bien. Vous qui nous suivez dans des hôpitaux, dans les prisons, partout où vous êtes, les victimes de la guerre dans l'est de notre pays, c'est un message qui vous est adressé. Dieu veut que vous puissiez vivre. Il ne veut la mort de personne. Il veut que tous vivent, se convertissent et soient sauvés. Ça, c'est notre Dieu. Mais Dieu nous donne aussi cette responsabilité. Autant il compatit à la souffrance de chacun de nous, autant il demande à chacun de nous de faire autant, en commençant par la prière. Voilà pourquoi la prière de notre Père, c'est aussi une prière de compassion, où nous devons manifester notre compassion à l'égard de tout le monde. C'est une prière qui, dans la deuxième partie, est formulée au pluriel. Donne-nous notre pain. Nous devons compatir à la souffrance des autres en priant. Vous qui êtes malade, quand vous priez, priez pour tous les malades. Ne priez pas seulement pour votre propre guérison. Ceux qui sont en prison, quand vous priez pour votre libération, priez pour tous les prisonniers. Chacun de nous, par rapport à son cas, ce que vous demandez pour vous, demandez cela aussi pour toutes les personnes qui auraient besoin de la même grâce. C'est ça la prière de notre Père. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Ne nous laisse pas entrer en tentation, donc c'est toujours au pluriel. Ne priez jamais à la première personne du singulier. Priez toujours à la première personne du pluriel. C'est ça la compassion de Dieu. Dieu est compatissant à notre souffrance. Nous aussi, soyons compatissants. Que nos prières soient catholiques, comme la messe. La messe est catholique. Parce que dans la messe, nous prions pour tout le monde, pour tous les vivants, et même pour tous ceux qui sont partis. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. C'est comme cela que nous disons pendant la messe. La messe, une prière catholique. Notre Père, une prière catholique, c'est-à-dire une prière universelle, où tout le monde est appelé à prier pour tout le monde. Avant de leur apprendre à prier, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus était en train de prier. Ça, c'est typique de Luc. Chez Matthieu, Jésus apprend cette prière à ses disciples dans un autre contexte. Mais chez Luc, comme Luc insiste beaucoup sur la prière, Jésus apprend à ses disciples cette prière pendant qu'il priait. Voilà ce que dit l'Évangile. Il arriva qu'en un certain lieu, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Il était en train de prier. Et c'est sûr que sa prière était très belle. Pas seulement en paroles, mais l'attitude qu'il avait pendant qu'il priait. C'est sûr que sa prière avait impressionné ses disciples. Pendant qu'il priait, son attitude, peut-être aussi les paroles qui sortaient de sa bouche, impressionnaient ses disciples. Il priait bien. Il faisait une belle prière. Nous aussi, nous devons apprendre à bien prier. Bien prier, c'est des paroles, n'est-ce pas, qui sortent de nos bouches. Mais bien prier, c'est aussi l'attitude pendant la prière. Quand vous allez à la messe, quelle est votre attitude? Vous regardez à gauche, à droite, parfois derrière. Ou bien vous êtes concentré. La messe, c'est la prière par excellence. Être concentré. Et pas seulement pendant la messe, dans toutes les prières, être concentré. Les attitudes que nous devons afficher, adopter durant la prière, doivent être différentes de nos attitudes dans la vie courante. Parce que la prière est sacrée, surtout quand il s'agit d'un sacrement, comme l'Eucharistie, c'est sacré. Et nos attitudes doivent être des attitudes des gens qui sont vraiment en train de prier, des positions à prendre. On ne peut pas s'asseoir de n'importe quelle façon, être debout de n'importe quelle façon. Jésus qui priait, priait de façon tellement belle que ses disciples ont dit non, apprends-nous aussi à prier. Que votre façon de prier aussi inspire les autres. Votre attitude quand vous allez à la messe, votre piété, ça doit aussi inspirer les autres. Ils doivent se dire, mais celui-là, il est d'une grande piété pendant la messe. Quand il prie, il se concentre. Il ne regarde pas à gauche, à droite, devant, derrière, mais il est concentré. Notre attitude de prière, notre façon de prier doit inspirer les autres, comme la façon dont le Christ priait. Et finalement, la demande de ses disciples, c'est intéressant, il dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » En fait, la prière, ça s'apprend. Apprendre à prier, ça s'apprend. La prière s'apprend. Apprendre à prier. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'abord, nous devons comprendre nos prières. La messe, c'est quoi? Les chapelets, c'est quoi? Quand c'est une neuvaine de prière, c'est quoi une neuvaine de prière? Que signifie prier? Parfois, nous ne sommes pas assez informés sur la messe, sur les chapelets, sur les prières que nous avons dans nos paroisses, neuvaines et autres. Nous ne sommes pas assez informés. On peut avoir une prière de neuvaine, d'un saint, des archanges, ou d'un l'un ou l'autre saint, ou une sainte. Mais qu'est-ce que ça signifie une neuvaine? Une neuvaine signifie quoi? Quelles attitudes devons-nous adopter pendant la neuvaine? Et la messe, nous y allons, chaque matin pour certains, des dimanches seulement pour les autres, ceux qui sont empêchés, mais au moins ils suivent ça dans des médias comme Radio Marie et autres. Vous allez à la messe, mais que signifie la messe? Que signifie la messe? C'est ça, apprends-nous à prier. Qu'on comprenne le sens profond de toutes ces formes de dévotion, ces formes de prière que nous avons dans l'Église catholique. Et Jésus leur apprend une prière qui est particulière. Les disciples de Jean-Baptiste priaient comment? C'est sûr que, comme la plupart des Juifs, ils recouraient aux psaumes. Les psaumes du matin, les psaumes du soir, les psaumes de l'après-midi, les psaumes en cas de difficultés, les psaumes en cas de tel problème, ça c'était souvent la prière des Juifs, c'était des psaumes. Mais Jésus leur apprend une prière particulière, une prière qui nous rend proches de Dieu. Nous disons que Jésus, c'est le médiateur par excellence entre nous et les pères. Mais dans cette prière, Jésus nous donne la grâce de parler directement au Père. Parce que l'Esprit Saint déversé dans nos cœurs, Galates 4, selon saint Paul, nous fait crier « Abba Père ». Et voilà pourquoi Jésus nous apprend une prière où nous devons nous adresser directement au Père, sans passer par Jésus. C'est une prière exceptionnelle. On raconte que saint François d'Assise, un jour, devait prier notre Père avec ses frères, ses disciples. Alors ils ont dit, nous allons prier chacun en silence, après on va partager sur cette prière. Et ils ont gardé, ils ont observé un moment de silence, et puis après ils ont commencé à partager. Quand on arrive chez saint François, il dit, François d'Assise, il dit, moi, je n'ai pas encore terminé de prier. Parce que dès que j'ai dit Père, eh bien pour moi c'était déjà une prière. Je me suis arrêté là-bas, Père. Le fait d'appeler Dieu Père, il s'est arrêté là, il n'a plus continué. Parce que c'était déjà une prière. Dire Père, quand vous dites Père, voyez ce que ça fait. Vous, parents, dans vos familles, quand votre enfant vous appelle Papa, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a des enfants qui le disent avec beaucoup d'affection, Papa. Et du coup, vous vous sentez interpellé. Vous vous sentez Père. Et vous vous tournez vers lui. S'il vous demande quelque chose, eh bien, vous allez les lui donner. Et nous-mêmes aussi, chacun de nous a eu un papa. Quand vous appelez votre papa, papa, comment vous sentiez? En fait, c'est ça cette prière. Donc c'est une prière de confiance. Quand on dit Père, ça signifie tout. C'est-à-dire que je me sens fils d'un Dieu qui est tout puissant. Je me sens protégé. Je me sens couvert par sa présence protectrice. Et je me sens bénéficiaire de toutes ces grâces. Chez Matthieu, Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Parce qu'il est notre Père, le Père à nous tous, qui veut le salut de tous, le bien de tous. Mais chez Luc, Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Ce n'est pas notre Père, mais Père. Parce que nous devons développer aussi une relation personnelle avec ce Père. Il est mon Père. Et ça, c'est vrai. Tu dois avoir une relation particulière. Tu dois entretenir une relation particulière avec Dieu le Père. Voilà pourquoi nous pouvons l'appeler Père. Mais dans la liturgie, on a retenu la version de Matthieu où nous l'appelons notre Père. Parce qu'il est mon Père. Je dois avoir une relation particulière, personnelle avec lui. Mais il est en même temps notre Père, c'est-à-dire le Dieu de tout le monde. Que cette prière soit une prière qui inspire toutes nos formes de prière. C'est une prière catholique où nous disons « Nous, donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas entrer. » On prie pour tout le monde. Puissions-nous être de ceux-là qui prient pour tout le monde, parce que Dieu est un Dieu compatissant, tendre et miséricordieux, comme c'est dit dans la première lecture, qui veut le salut de tout le monde, des pécheurs, des injustes et des justes, des mauvais et des bons. Dieu veut votre salut, le salut de tout le monde. Il est compatissant. Que la compassion du Seigneur nous accompagne. Puissiez-vous être bénéficiaire de cette compassion, parce qu'il compatit, qu'il vous libère de vos soucis, de vos préoccupations, parce qu'il est un Dieu compatissant. Et à travers la prière de notre Père, nous aussi, soyons compatissants à l'égard des autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Tu as trouvé une grâce unique, tu enfanteras le Messie, que tu appelleras Jésus.
Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et s'accomplit la prophétie qu'une vierge enfantera et elle s'appelle Marie.
Zacharie Élisabeth, elle portait Jean-Baptiste, celui qui devait baliser le chemin pour Yeshua.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni, dit Élisabeth.
Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, répondit Marie. Et Joseph, la sachant enceinte, projetait de la répudier secrètement. Et l'ange lui apparut, lui expliqua le vénement, l'avènement du Christ, le Sauveur.
Comme Maria, soyez comme Maria.
Selon ta volonté, Seigneur.